Véroa Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Eric Manelakidza à la présentation de cette édition du mercredi 2 juin 2021. Voici d'abord le sommaire. N'Djamena et Bangui demandent à l'Union africaine et à l'ONU d'enquêter un incident meurtrier à un poste frontalier. Le gouvernement ivoirien discute avec le Front populaire ivoirien sur le retour de Laurent Gbagbo, l'ex-président ivoirien. Kinshasa promet une accélération de l'état de siège dans 2 provinces dans l'est de la RDC. Cyberattaque contre JBS, le géant mondial de la viande. Moscou se dit disposé à coopérer avec Washington. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Le Tchad et la République centrafricaine ont demandé aux Nations Unies et à l'Union africaine d'enquêter un incident survenu à un poste frontalier. Au moins 6 soldats tchadiens ont été tués par des troupes centrafricaines lors des affrontements. Le point avec Jean-Roger Guillon.
Une délégation de la République centrafricaine s'est rendue au Tchad mardi et a rencontré Mahamat Idriss Déby, chef du Conseil militaire de transition. Les représentants des deux pays ont convenu qu'une commission composée d'agents de l'ONU, de l'Union africaine et d'autres organisations régionales devrait être formée pour enquêter sur l'incident. Soucieuse de préserver les liens séculaires de fraternité et d'amitié, les deux parties s'engagent à mettre en œuvre les conclusions de la commission d'enquête, indique le communiqué conjoint publié mardi. Dimanche, le ministère tchadien de la Défense a déclaré que les troupes centrafricaines avaient attaqué un poste militaire tchadien, tué un soldat et enlevé et exécuté 5 autres. De leur côté, les autorités centrafricaines ont déclaré qu'une fusillade avait éclaté par erreur, alors que leurs soldats poursuivaient un groupe rebelle près de la frontière, entraînant la mort de militaires des deux côtés, sans préciser leur nombre.
Au Nigeria, les familles des nombreux élèves enlevés le week-end dernier dans une école privée musulmane ont appelé le gouvernement à tout faire pour les aider à faire libérer les enfants. Les autorités n'ont toujours pas communiqué le nombre exact d'enfants enlevés, mais environ 200 enfants se trouvaient dans l'école Saliou Tanko, dans la localité de Teguina, située dans l'état du Niger au moment de l'attaque dimanche après-midi. Les autorités sénégalaises ont commencé à faire le ménage dans l'établissement pénitentiaire de Dakar, d'où s'est échappé le week-end dernier un célèbre détenu. Le directeur de la prison a été relevé de ses fonctions. Baye Modou Fall, surnommé Boy Jine, le jeune génie, est activement recherché après 4 jours de cavale, mais il est apparu hier soir dans un long entretien accordé à une chaîne de télévision privée. En Côte d'Ivoire, le parti de Laurent Gbagbo, le FPI, a annoncé son retour au pays pour le 17 juin. Le porte-parole du gouvernement ivoirien dit que ça n'a pas été décidé de manière consensuelle. Les précisions avec John Lyndon.
La date devrait être discutée de façon consensuelle entre le gouvernement et le Front populaire ivoirien. Or, elle ne l'a pas été, a déclaré Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. Avant de fixer de manière consensuelle une date, il faut mettre en œuvre des dispositions, notamment concernant la sécurité de Laurent Gbagbo, a-t-il ajouté. Le secrétaire général du FPI, Assou Adou, avait annoncé lundi que l'ancien président va rentrer en Côte d'Ivoire le 17 juin, après 10 ans d'absence à la suite de son acquittement par la Cour pénale internationale et du feu vert donné par Abidjan à ce retour très attendu par les partisans de Gbagbo. Cependant, la divergence sur les modalités de ce retour n'a pas rompu les ponts entre le gouvernement et le FPI, car une rencontre est prévue entre le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan Bertin, et les dirigeants du FPI.
Le tout nouveau ministre de la Coopération internationale du Congo-Brazzaville, Denis Christelle Sassou Nguesso, fils du président congolais, a dit mercredi vouloir impulser une coopération qualitative avec les partenaires étrangers du pays. Nous allons désormais privilégier la qualité plutôt que la quantité, a-t-il déclaré. Denis Christelle Sassou Nguesso, 46 ans, fait partie d'un gouvernement composé par son père qui cumule près de 37 ans de pouvoir. Après de nombreux massacres dans l'est de la RDC, le gouvernement a promis une accélération de l'état de siège pour lutter contre les groupes armés. Claire Morin-Gibourg.
Tous les dispositifs ont été pris, a déclaré hier le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, à l'issue d'une réunion avec le Premier ministre Jean-Michel Sama Loukonde, consacrée à l'état de siège. « Nous sommes en phase d'accélération », a-t-il expliqué, assurant que les opérations sur le terrain allaient démarrer. Il a promis que d'ici 2 semaines, la situation ne sera plus la même. Lundi, plus de 50 personnes ont été massacrées en Ituri et 5 civils ont été tués hier dans la région de Beni. Le gouvernement n'a fait aucune déclaration sur ces attaques. Le président Félix Tshisekedi a décrété le 6 mai l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour venir à bout des groupes armés. Cette décision reconductible avait été prise après une vague de tueries attribuées aux rebelles ADF et à des groupes Mai Mai. Des gouverneurs et administrateurs militaires ont été nommés dans ces 2 provinces, mais jusque-là, aucune opération majeure n'a été lancée.
La tension était vive mercredi à Lubumbashi. Les autorités ont été obligées d'annuler une manifestation initialement autorisée en faveur d'une proposition de loi controversée sur l'accès à la magistrature suprême et à d'autres fonctions de souveraineté en RDC. Un ancien candidat malheureux à l'élection présidentielle, Noël Tchiani, veut que les candidats aux fonctions de président de la République, du Sénat, de l'Assemblée nationale, du chef de l'armée, soient réservés exclusivement aux Congolais nés de père et de mère congolais. Nous voulons éviter l'infiltration au sommet de l'État et nous voulons protéger la souveraineté nationale, a-t-il soutenu. Depuis des semaines, il mène une intense campagne dans les médias et réseaux sociaux. Le Burkina Faso a lancé mercredi sa campagne de vaccination contre le Covid-19 en commençant par les professionnels de santé et les personnes vulnérables. Certains ministres ont également reçu leur vaccin pour témoigner de sa fiabilité, invitant les personnes ciblées par cette première campagne à se faire vacciner. Selon le ministère de la Santé, 92 000 doses vont être administrées aux professionnels de santé, puis environ 20 000 aux candidats au pèlerinage à la Mecque. Le chef des indépendantistes Front Polisario est revenu mercredi en Algérie après avoir quitté dans la nuit l'Espagne, où il avait été hospitalisé en avril en secret. Le départ de Brahim Ghali est intervenu après la décision d'un juge espagnol de ne prendre aucune mesure à son encontre après l'avoir entendu dans le cadre de 2 plaintes pour torture et génocide.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin est prêt à coopérer avec Washington concernant l'attaque informatique qui a visé le géant mondial de la viande JBS. Des hackers russes sont mis en cause. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le porte-parole de la présidence russe indique qu'il y a des contacts via des canaux diplomatiques. Dmitri Peskov annonce que la cybercriminalité sera un des points importants de l'agenda du sommet entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine, prévu le 16 juin à Genève. Le groupe brésilien JBS a découvert dimanche que plusieurs des serveurs sur lesquels sont basés son système informatique en Amérique du Nord et en Australie étaient visés par des hackers. Le groupe a indiqué aux autorités américaines être la cible d'une cyberattaque venant d'une organisation criminelle, probablement basée en Russie, selon une porte-parole de la présidence américaine, Karine Jean-Pierre, qui a indiqué que la Maison-Blanche est en contact direct avec le gouvernement russe sur cette question. Ce dossier de la cybercriminalité envenime les relations entre les 2 pays. Washington a sanctionné Moscou plusieurs fois pour des attaques informatiques. Les États-Unis suspectaient d'orchestrer ces attaques ou balayer ces accusations, affirmant vouloir un partenariat sur la cybercriminalité avec les États-Unis.
Les adversaires du Premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahou, ont jusqu'à minuit moins une minute pour annoncer un éventuel accord sur un gouvernement. Des tractations marathon se sont poursuivies tard dans la nuit à l'approche du délai fixé par la présidence. Le Parlement israélien s'est réuni ce matin en plénière pour élire le 11e président de l'État d'Israël. Le travailliste Isaac Herzog, 60 ans, a été élu à cette fonction honorifique et dépourvu de pouvoir exécutif. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco, présentée ce soir par Jean-Roger Dion.
En visite de travail au Niger depuis le 29 mai, Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a signé ce mercredi plusieurs conventions de financement d'un peu plus de 200 milliards de francs CFA, dont 28 milliards constituent un don selon l'agence Ecofin. Les fonds vont servir en grande partie à renforcer la connectivité du pays, notamment dans la partie nord-est, avec la réhabilitation de la route Tano-Tigidit et l'entretien périodique de la nouvelle route Zinde-Agadez sur une période de 10 ans. Le FMI a annoncé être parvenu à un accord avec les autorités ougandaises sur un programme d'aide triennale d'un montant d'$1 milliard. Cette aide, qui doit être accordée au titre de la facilité élargie de crédit, est soumise à l'approbation préalable de la direction du Fonds monétaire international et à l'examen du conseil d'administration prévu dans les semaines à venir, a précisé le fonds dans un communiqué. L'Allemagne et les États-Unis discutent à Washington du projet gazoduc sous-marin Nord Stream 2 pour tenter de résoudre leurs différends, a déclaré mardi le ministre allemand des Affaires étrangères, Heiko Maas. Le projet Nord Stream 2, financé par le géant gazier public russe Gazprom et dont les travaux sont achevés à environ 95% à ce stade, doit permettre à Moscou d'accroître sa fourniture de gaz tout en contournant l'Ukraine, privant ainsi Kiev d'importantes recettes de transit.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouédraogo est avec nous ce soir. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Athlétisme pour commencer. Le Burkinabé Hugues Fabrice Zango, médaillé de bronze mondial en 2019, a réussi la meilleure performance de l'année sur le triple saut avec un essai de 17,67 mètres hier lors du meeting de Montreuil en France. Il égale ainsi le record de la réunion appartenant à son entraîneur Teddy Tamgo, en plus de réussir la meilleure performance de la saison à son deuxième essai. À bientôt 28 ans, Zango fait figure de favori pour le titre olympique depuis la grave blessure du champion en titre américain Christian Taylor. Le record du monde est toujours détenu depuis le 7 août 1995 par le Britannique Jonathan Edwards avec 18,29 mètres. Parlant justement des JO de Tokyo, les joueuses de l'équipe australienne de softball sont arrivées hier au Japon, devenant la première équipe olympique à fouler le sol de l'archipel pour les Jeux de Tokyo, qui suscitent encore polémiques et doutes en pleine pandémie, ayant déjà été vaccinées et testées avant leur départ. Les sportives australiennes ont subi un test de dépistage du COVID-19 à leur arrivée. À cette semaine des JO, gouvernement japonais et responsable de l'organisation des Jeux assurent que ceux-ci auront lieu et se tiendront de manière sûre et sécurisée. La population est cependant opposée à l'organisation des Jeux cet été, souhaitant, selon divers sondages, leur annulation ou un nouveau report. Les Jeux sont prévus du 23 juillet au 8 août prochain. Ici, en NBA, nous parlons des playoffs. Les Lakers sont en danger pendant que Brooklyn est qualifié pour les demi-finales de la conférence Est. Bagassi Koura.
Oui, James Harden, auteur d'un triple-double, 34 points, 10 passes, 10 rebonds et 2 contre, a été la locomotive des Nets lors de leur quatrième victoire, 123-109, décisive aux dépens des Boston Celtics. Les Nets se qualifient ainsi pour les demi-finales de la conférence Est, où ils feront face aux Bucks de Milwaukee. De leur côté, privés d'Anthony Davis, blessé et manquant surtout de combativité, les Los Angeles Lakers se sont fait humilier par les Phoenix Suns 115-85. Le champion en titre se retrouve ainsi au bord de l'élimination en étant mené 3-2. Enfin, le génie de Damian Lillard n'a pas suffi pour Portland. Malgré deux prolongations arrachées par sa star, extraordinaire à 3 points avec 12 tirs réussis, les Blazers ont cédé sur le parquet des Nuggets, 127-140. Les Blazers devront trouver la force mentale de se remobiliser à domicile demain. Selon les Nuggets, qui mènent 3-2, se qualifieront pour les demi-finales de la conférence Ouest.
Bagassi Koura, merci.
C'était les sports de Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manlakiza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. L'Union africaine a annoncé mardi soir dans un communiqué sa décision de suspendre à nouveau le Mali, théâtre en mai d'un second coup d'état militaire en 9 mois. Bamako est donc suspendu de sa participation à toutes les activités de l'Union africaine, ses organes et ses institutions jusqu'à ce qu'un ordre constitutionnel normal soit rétabli dans le pays. Pour comprendre les conséquences de cette décision sur le plan politique et économique, suivez ce reportage de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
À la suite de la CEDEAO, l'Union africaine a décidé à son tour de suspendre le Mali de toutes ses instances en attendant la mise en place d'un gouvernement et de voir comment est-ce que va s'organiser la suite de la transition. Pour l'analyste politique Mohamed Mamata Touré, cela va avoir de lourdes conséquences pour le pays qui ne participera plus aux décisions sur le continent.
Nous pouvons lire quelques effets de cette suspension sur le Mali. 1. Impact négativement sur le pays lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts du Mali sur des questions traitées au niveau de ses instances. 2. Dans le concert des nations, cette suspension fera de nous de mauvais élèves, pour ne pas dire indisciplinés sur le respect des engagements.
Pour la classe politique malienne, qui est en ce moment sollicitée par les militaires pour faire partir du futur gouvernement qui sera dirigé par un civil, cette sanction isole le Mali sur le plan continental. Une situation regrettable, surtout en cette période de crise que traverse le peuple malien. Abdrahmane Diarra, président de la jeunesse URD.
Tout compte fait, même si la décision de suspension n'annonce pas de sanctions spécifiques derrière, cela pourrait contribuer à un isolement du Mali, ce qui n'est pas souhaitable, eu égard à la situation sociopolitique que nous traversons. Voilà, donc vraiment, je demanderai à l'Union africaine de revoir sa copie, vraiment de comprendre la situation et d'accompagner le Mali à réussir cette transition en vue de retrouver très rapidement la normalité.
Si la CEDEAO a demandé aux partenaires du Mali, notamment l'Union africaine, d'accompagner le pays pour la réussite de sa transition, cette décision de l'instance africaine vient, selon Mohamed Mamata Touré, compliquer davantage la situation économique du pays déjà fragilisée.
Je dirais que ça peut impacter négativement aussi sur les fonds destinés à l'aide au développement, à la sécurité et à la préservation de l'environnement destinés aux pays de la CEDEAO, comme de l'Union africaine aussi, par divers partenaires. Plus la possibilité de saisir l'instance juridique de la sous-région et puis de l'Union africaine aussi.
Dans son communiqué, l'Union africaine affirme que cette décision ne sera levée que si l'ordre constitutionnel est établi au Mali. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
Au Tchad, 2 jours après l'attaque d'un poste frontalier de l'armée par les forces centrafricaines, les autorités centrafricaines ont réussi à faire baisser la tension de N'Djamena. Des envoyés de Bangui ont présenté leurs excuses mardi soir aux autorités tchadiennes de transition qui, au départ, refusaient de régler ce différend par voie diplomatique. Cet incident a causé la mort de 6 soldats tchadiens, dont 5 ont été enlevés et exécutés. André Kodmajingar, notre correspondant de VOA Afrique, fait le point de N'Djamena.
Le Tchad, qui qualifie l'attaque de son poste frontalier dimanche dernier par l'armée centrafricaine de crimes de guerre d'une gravité extrême et d'une attaque meurtrière préméditée et planifiée qui ne saurait rester impunie, a finalement accepté les excuses de Bangui. Les excuses portées par une délégation centrafricaine ce 2 juin aux autorités tchadiennes de transition. Une délégation conduite par la ministre des Affaires étrangères Sylvie Baipo-Temon.
La population centrafricaine et la population du Tchad sont frères. Il peut y avoir des fois des propos mais qui ne vont pas au-delà de la rupture de liens de fraternité. Nous avons eu, comme dans toute famille, des turbulences, mais il nous faut ne pas entretenir ce cliché de conflit que les gens, en tout cas, veulent, parce que c'est volontaire aussi de vouloir toujours conserver une image de conflit.
Les deux pays voisins ont non seulement souligné l'urgence d'élucider les circonstances dans lesquelles l'attaque a été perpétrée, mais sont également convenus de la mise en place d'une commission d'enquête internationale indépendante et impartiale qui va se déployer sur le terrain pour établir les faits afin de situer les responsabilités.
Pour nous, c'est une décision salutaire qui permettra aux deux parties de privilégier la voie du dialogue qu'à la voie des armes.
Mahamat Digadibaï coordonne une plateforme de la société civile tchadienne sur le terrain. Le calme précaire est observé, mais le Tchad continue à renforcer sa base militaire à la frontière. Une situation qui inquiète la population frontalière, comme en témoigne à VOA Afrique, Gamaoul Jonas, maire de la ville de Mbaye-Boukoum, située à 34 km de frontière Tchad-RCA.
Il y a du calme, mais il y a nos forces là, qui continuent à se déployer. Et c'est là où on ne connaît pas le lendemain. Parce que le plus souvent, vous voyez, quand il y a surtout des tensions entre deux pays, et surtout s'il y a un conflit armé, la population souffre, surtout la population civile. Et nous qui sommes dans la zone, vraiment, nous sommes inquiets.
Le représentant de la FIDH auprès de la CEMAC, Dobin Assingar, accuse les grandes puissances d'être derrière cet événement malheureux.
Ce qui est en train de se passer entre les deux pays frères, ça sera une guerre entre la France et la Russie. Qu'on ne se trompe pas. J'appelle à la conscience de nos dirigeants pour rester lucides et comprendre que cette guerre n'est pas la guerre des Africains et qu'il faut éviter ça à tout prix.
Pour Mahamat Digadimbaï, coordonnateur national d'une plateforme de la société civile tchadienne, que le Tchad et la République centrafricaine ne soient pas un camp de combat pour des intérêts stratégiques et internationaux.
Si l'on ne prend garde, des puissances internationales pour des questions stratégiques vont utiliser nos deux pays. On va se faire la guerre, mais ce ne sera pas dans nos intérêts. Donc, nous pensons qu'il est temps que les gouvernements centrafricains et le gouvernement tchadien puissent privilégier d'abord les relations historiques qui existent entre nos deux États. Donc, c'est pourquoi nous disons avec sagesse qu'il faudrait qu'on évite de tomber dans ces conflits latents entre les puissances internationales en Afrique.
Selon des indiscrétions, des avions de chasse de l'armée tchadienne survolent toujours les frontières Tchad-République centrafricaine. André Koduma Dingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Cameroun, les autorités ont expulsé plus de 1000 mineurs illégaux à la frontière avec la République centrafricaine après la mort de 27 personnes dans une mine d'or en raison de glissements de terrain. Parmi les expulsés, il y a au moins 400 centrafricains et des Sénégalais au village de Kambélé. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka, le récit est de Rosine Munezero.
Au moins 300 mineurs illégaux ont été forcés par la police et l'armée camerounaise de s'asseoir par terre au marché de Kambélé mardi soir. Parmi eux, des Camerounais, centrafricains et des Sénégalais. Alfred Kamoun, 31 ans, père de deux enfants, est originaire de la République centrafricaine voisine. Il dit avoir été forcé de quitter le site minier appelé Boukarou dans le village de Kambélé.
J'ai au moins 7 grammes ici. 7 grammes, on tape sur 25 000. On a travaillé la nuit avec mes deux petits frères et on a eu ça.
Kambélé est un village de Batouri à environ 700 km de la Centrafrique. Lundi, les autorités de Batouri ont annoncé que 27 mineurs illégaux sont morts le mois dernier dans le village de Kambélé. Oberlin Bélessa, maire de Batouri, a déclaré qu'une réunion de crise d'urgence a recommandé l'expulsion d'au moins un millier de civils de la zone minière à risque.
Il y a comme une ruée vers l'or de l'ensemble des populations. Certaines de ces populations viennent des zones éloignées. Quand il y a des morts, on ne peut pas être indifférent. S'il y a d'autres victimes, peut-être que les fouilles progressives qui y sont menées pourront les révéler.
Le Cameroun dit avoir déployé des secouristes, des militaires et la police à Kambélé pour expulser de la zone des mineurs illégaux et s'assurer que les étrangers obtiennent un permis de résidence et d'exploitation ou qu'ils soient déportés. L'armée interdit aux mineurs de visiter les zones à risque où les puits creusés pour rechercher de l'or finissent par s'effondrer. Bababel, chef traditionnel de Kambélé, affirme que certains chercheurs d'or se sont peut-être noyés dans des tranchées inondées après des fortes pluies.
Les gens viennent sans l'autorisation de pouvoir travailler sur le site. Ils viennent sous forme des voleurs et quittent de loin d'autres de Colomines, de Yokadouma, partout. Ils viennent causer le désordre. On les repousse souvent dans la journée, mais quand la nuit arrive, ils descendent dans le trou. Ça n'est pas contrôlé. C'est là où il y a toujours le cas des morts.
Hilaire Kembe est un chercheur d'or illégal au village de Kembele. Selon lui, il est impossible de connaître le nombre exact de morts ou de blessés le mois dernier à Kembele.
On va faire comment pour savoir le nombre de corps qui restent dans le trou. Surtout les voleurs, ceux qui viennent dans la nuit, l'accident les trouve. Toi, tu dors à la maison, tu vas faire comment pour connaître que la terre a pris quelqu'un. C'est à la fin, le moment que le Chinois libère le trou aux populations. Quand la personne là vient pour creuser, pour il trouve le corps dans le trou, il dit, mais voici le corps. Il monte, il prend sa route, il part pour aller se laver, et il revient, il reste tranquille.
Le Cameroun affirme que certains des mineurs illégaux sont des personnes déplacées qui ont fui le conflit en Centrafrique. Et le groupe terroriste de Boko Haram, ou fuyant les combattants séparatistes anglophones de l'ouest du pays. Le gouvernement a toujours interdit aux personnes non autorisées de creuser dans la zone, mais de nombreux jeunes ignorent cet ordre parce qu'ils sont au chômage.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Lors de sa visite en Oklahoma hier, Joe Biden est devenu le premier président américain à commémorer l'anniversaire du massacre de Tulsa, la destruction en 1921 d'une communauté noire par une foule d'hommes blancs qui a fait entre 100 et 300 morts, selon des historiens. Un reportage de la correspondante de la VOA à la Maison Blanche, Patsy Widakuswara, relaté par Nathalie Barge.
En 1921, une foule d'hommes blancs a brûlé le quartier africain-américain Greenwood, faisant des dizaines de morts et près de 8000 sans-abri. Un chapitre sombre de l'histoire des États-Unis qui a été gardé sous silence pendant des décennies. Demetrius Williams, un habitant de Tulsa.
Même les gens originaires de Tulsa, ils ne savaient pas jusqu'à récemment.
Hier, Joe Biden a visité le centre culturel Greenwood. Il est le premier président américain à commémorer le centenaire de cet événement tragique.
Chers compatriotes américains, ce n'est pas une émeute, c'est un massacre.
Monsieur Biden a rencontré trois survivants.
Vous êtes les trois survivants connus d'une histoire restée vague. Mais plus maintenant. Désormais, votre histoire sera connue au grand jour.
À cette époque, la presse américaine avait rapporté différents bilans variant entre 70 et 170 morts. Et une commission d'État en 2001 n'a pu confirmer que 36 décès, dont 26 noirs et 10 blancs. Steve Phillips, fondateur du média politique Democracy in Color.
Les dossiers ont en fait été retirés de la mairie et retirés de la bibliothèque. Ils ont délibérément dissimulé toute cette histoire. Et maintenant, vous voyez une tendance qui continue à blanchir l'histoire du racisme, la suprématie blanche dans ce pays.
Joe Biden a annoncé des mesures pour investir des dizaines de milliards de dollars dans les communautés défavorisées, étendre les contrats fédéraux avec des entreprises appartenant à des minorités et abroger deux lois qui restreignent les pratiques de logement équitable. Il n'a toutefois pas mentionné de réparation pour les victimes de Tulsa. Robert Turner, pasteur de l'église Vernon à Tulsa.
C'est hypocrite pour nous de faire le tour du monde et d'essayer d'exiger que d'autres pays traitent leurs citoyens correctement et soient justes et équitables, alors que l'Amérique n'a pas encore expié son pire massacre racial de l'histoire américaine.
Le rapport final de la Commission d'État d'Oklahoma en 2001 mentionne que la ville de Tulsa avait conspiré avec des citoyens blancs contre des citoyens noirs et elle avait recommandé des réparations qui n'ont jamais eu lieu.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Michel Claire-Joseph, Georges et Léonard Sagnot, Joselle Morissin et Lionel Lunamira Gahima. Eric Manelakiza a été à la présentation, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.